Vous écoutez France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Jean de Kervas-Doué, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur agronome, ingénieur des ponts et forêts, membre de l'Académie des technologies et professeur émérite au CNAM. Vous avez été directeur général des hôpitaux et vous vous occupez depuis longtemps maintenant de problèmes de santé publique. Vous avez d'ailleurs créé au CNAM l'école Pasteur de santé publique. Si je vous ai invité ce matin à l'antenne de l'Union rationaliste, c'est que je voulais que nous tentions d'exercer notre raison sur la difficile question des moteurs diesel et de l'émission des petites particules. Vous avez publié en janvier 2014 chez Robert Laffont un excellent ouvrage auquel les rationalistes que nous sommes ne peuvent que s'intéresser, intitulé « Ils ont perdu la raison ». Ouvrage dans lequel vous vous en prenez à un certain irrationalisme contemporain qui préfère les contre-vérités démagogiques aux vérités politiquement incorrectes. Parmi celles-ci précisément, il y a le danger que vous dites être très surestimé du diesel. Alors, Jean de Kervas-Doué, quelle analyse produisez-vous de ce qui se joue aujourd'hui autour de la question du diesel ?
Alors c'est à la fois assez simple et assez grave, mais quand j'ai entendu deux ministres de la République de l'époque, Madame Duflot et Madame Bateau, dire l'une et l'autre, l'une 42 000 morts dues à la pollution des moteurs diesel et l'autre renchérir en disant 44 000, je me suis dit « c'est pas possible ». Alors c'est assez simple, hein. Il naît en France 830 000 personnes chaque année. Il y en a 530 000 qui meurent, donc on a un gain formidable d'ailleurs d'espérance de vie dû à cette différence. Et la première cause de mortalité, c'est le cancer du poumon, c'est 27 000, et c'est le tabac. Donc où est-ce qu'on les trouve, ces 42 000 ? Alors, ces deux ministres nous disent, de manière un peu imprudente, que l'Organisation mondiale de la santé affirme ou donne ce genre de chiffres. Alors, vous allez sur le site de l'Organisation mondiale de la santé et vous découvrez que les particules des moteurs diesel, donc pas le moteur diesel, hein, les particules des moteurs diesel, parce qu'il y a un filtre, il peut y avoir un filtre entre les particules et le moteur, mais les particules des moteurs diesel ont été récemment reconnues comme un cancérigène auto-avéré.
Avéré, c'est la formule de l'OMS.
C'est la formule de l'OMS. Alors, vous vous dites, quand vous avez l'habitude de ça, si ça a été seulement reconnu en 2011 ou en 2012, c'est que c'est sûrement pas très important, parce que sinon, il y a très longtemps que ça aurait été reconnu. Alors, c'est le cas du tabac, c'est le cas de l'alcool, c'est le cas de tas d'autres mécanismes. Et surtout, vous allez voir l'étude qui a permis à l'Organisation mondiale de la santé de prendre ses décisions. Alors, cette étude, qu'est-ce qu'elle compare ? Alors, écoutez bien, elle compare deux cohortes de mineurs américains.
De mineurs, d'ouvriers travaillant dans les mines.
Oui, c'est ça. Oui, vous avez raison.
D'ouvriers travaillant dans les mines.
Oui, pardon. Alors, d'un côté, il y en a les pauvres qui minent avec des marteaux piqueurs dont l'énergie vient de vieux moteurs diesel sans filtre. Et ceux-ci, ou la santé de ceux-ci, ont été comparés à des mineurs qui minent avec des marteaux piqueurs dont l'énergie vient de la surface.
Bon. D'accord. Deux formes de forage différentes.
Deux sources d'énergie différentes.
Non, c'est les mêmes mines. Les pauvres chéris sont différentes.
Bon, c'est pas très drôle d'être mineur, à mon avis. C'est encore moins drôle quand on est mineur d'avoir un moteur diesel ancien qui vous crache ses émanations. Et quand vous comparez, donc vous voyez qu'il y a un risque relatif d'avoir des cancers de 3, facteur de 3. Alors, ça paraît beaucoup, 300%, en fait, c'est relativement peu parce que c'est des risques faibles. Mais bref. Ceci dit, quand vous regardez, comme on dit dans le jargon des statisticiens, quand vous contrôlez pour le tabac, vous voyez que ces différences disparaissent. Donc c'est en fait le tabac qui compte. C'est l'addition du tabac et le fait de miner avec un moteur diesel qui vous crache des particules à la figure.
Donc ce que vous dites, c'est que statistiquement, les risques sont cumulatifs.
Absolument.
Et que dans cette étude sur laquelle s'est fondée l'OMS, oui, on omet beaucoup de précisions.
Et qui n'a jamais dit 40 000 morts. Je vais revenir.
D'accord. Alors, première chose.
Alors, c'est la fin. C'est-à-dire quand vous comparez les non-fumeurs diesel et les non-fumeurs pas diesel, mm-hmm, vous voyez qu'un risque relatif est de 1 à 4, ce qui est très très faible. Et les statisticiens vous disent qu'il ne faut pas regarder quand c'est inférieur à 3. Alors, cette étude a été répliquée en Allemagne chez les mineurs de potasse qui, eux, minent avec des moteurs diesel récents, avec des filtres.
Des filtres à particules.
Et il n'y a aucune différence. Donc, vous voyez bien que les annonces de nos ministres sont lourdes de conséquences, parce que la France a développé, pour des raisons fiscales, enfin, peu importe ses raisons, mais des moteurs diesel pour les voitures moyennes. Il y a eu une évolution très, très importante dans les filtres, et on remet en cause et des emplois, et on fait croire que c'est un danger. Moi, je conduis, comme vous, je crois, mais moi, depuis plus longtemps, à deux roues dans Paris depuis 50 ans. Et je vous jure que si le diesel tuait 42 000 morts, ni vous ni moi ne serions là pour en parler. Alors, par ailleurs...
Ce que vous dites, donc, c'est que l'utilisation politique qui a été faite de cette étude publiée par l'OMS est en fait à des fins politiques.
Oui, qui sont. Quand vous regardez ce que craignent les Français, vous voyez qu'effectivement, la pollution atmosphérique vient très très haut, alors que comme cause de mortalité prématurée, ça viendrait entre le 15e et 20e rang, alors que dans les craintes, c'est ça vient au 3e rang.
Alors, ce que vous dites là, oui, Jean de Kervas-Doué, c'est que dans l'imaginaire des Français, et peut-être aussi des écologistes, il y a une différence qui n'est pas faite entre le risque réel et le risque perçu.
Absolument. Non seulement je dis ça, mais il y a une utilisation de l'opinion. Alors ça paraît tautologique, c'est-à-dire que l'argument de mon livre aujourd'hui, c'est de dire que nous sommes dirigés par des sophistes. Alors que vous êtes plus philosophe que moi, mais comme on le sait tous les deux, c'est un très très vieux débat. Et le problème des sophistes n'est pas la vérité. Le problème des sophistes, c'est de vous convaincre. Alors aujourd'hui, ça s'appelle sondage d'opinion, éléments de langage, etc. Et il y a une distorsion. Par exemple, quelque chose de très... Donc moi, je suis allé assez souvent en Chine récemment pour des questions de santé. Et comme asthmatique, comme beaucoup, vraiment la pollution atmosphérique me gêne.
En Chine.
Mais néanmoins, les Chinois, en dépit de la très très grande pollution de leur ville, qu'ils ont bien aperçue et qu'ils commencent à essayer de combattre, ils ont gagné 38 ans d'espérance de vie en 50 ans. C'est-à-dire que quand vous regardez l'histoire du 19e d'abord et ensuite du 20e, vous voyez que nos villes ont été très très polluées, mais que malgré cette pollution, du fait de la qualité de l'eau, du fait de la qualité des produits alimentaires, je ne suis pas du tout un avocat de la pollution atmosphérique et je pense qu'il faut tout faire pour le combattre, mais vous voyez bien qu'il y a d'autres facteurs qui, eux, sont positifs et notamment le développement économique. Alors, je terminerai en disant deux choses sur la pollution. Jamais l'air n'a été aussi pur en France. Le vrai danger pour les asthmatiques qui nous écoutent, et ils le savent, c'est le printemps.
Et les pollens.
Là, tout à l'heure, je suis passé pour venir ici devant le jardin des Tuileries. Il y avait beaucoup de vent et une pollution, une poussière terrible. J'ai baissé la visière de mon casque. Et j'ai vécu au Niger pour construire des barrages quand j'étais jeune ingénieur. Et au Niger, il y a des tempêtes de ça pendant deux ou trois mois. Et là, il y a vraiment des niveaux de pollution qui sont très, très élevés. Alors, dernière manipulation, les normes. Donc, on vous dit que la pollution atmosphérique est dangereuse. Elle l'est beaucoup moins qu'en réalité. Donc, vous définissez les normes et vous baissez les normes les unes après les autres. Et en fait, aujourd'hui, ce qui conduirait à la circulation alternée dans Paris, c'est le niveau de pollution que vous avez chez vous, dans votre appartement, au bout de 20 minutes quand vous faites de la cuisine au gaz. Bon, les gens ne meurent pas pour ça. Donc vous voyez, c'est incroyable. Alors, et on voit que toute cette évolution, ce matin, dans un de mes ouvrages, je me suis élevé contre les normes en matière de pesticides. Et dans celui-là, j'en parle également un peu. Oui. Mais ce matin, donc, j'entendais enfin que 3 députés ou 4 commencent à s'émouvoir du fait qu'on ne fabrique plus de pommes en France. Les fruits. Et on ne le fabrique plus du fait de l'imposition des normes sur l'épandage des pesticides, qui sont des normes tout à fait déraisonnables et quelquefois ridicules, tellement elles sont déraisonnables. Parce qu'on vous explique qu'il faut qu'en dessous de force 3, vous rentrez, donc ça vous oblige à avoir un anémomètre, que vous devez attendre 36 heures, enfin bref. Et quand il y a eu une étude qui comparait les normes du ministère de l'Agriculture et la réalité des meilleures pratiques des arboriculteurs, vous voyez que en fait, les uns produisaient des pommes et dépensaient beaucoup moins de pesticides que les normes du ministère. Donc on rentre dans une espèce de folie où on surprotège et cette surprotection détruit. Pour prendre un autre exemple, moi je me suis ému du fait l'été dernier que d'apprendre que la moitié des enfants français n'allaient plus en vacances. Donc, vieux monsieur, je me suis dit, mais de mon temps, les gens de milieu modeste allaient en colonie de vacances. Alors, j'ai téléphoné à 2 ou 3 grandes entreprises très connues qui avaient des colonies de vacances et ils m'ont dit, ah ben, t'as raison, on les a fermées. Alors, on les a fermées pourquoi ? On les a fermées parce qu'on impose des normes sur les bâtiments. Et l'une d'entre elles me disait, écoute, nous, on a un château que... C'était très bien, mais on nous exigeait 6 millions de travaux pour 5 semaines de vacances, alors que vraiment, ce n'était pas utile. Ensuite, les moniteurs, aujourd'hui, ils doivent passer des concours, des examens, des brevets, ils doivent savoir plonger, jouer au tennis, enfin bref. Et puis, du fait de l'évolution de la jurisprudence sur qui pourrait poursuivre pour des attouchements réels ou supposés, il y a de moins en moins de jeunes hommes ou femmes qui ont envie de faire ça. Donc, vous voyez, on est dans une situation tout à fait fascinante, c'est-à-dire qu'à force de surprotéger les enfants dans les colonies de vacances, les colonies de vacances disparaissent. Donc c'est paradoxal, mais à force de surprotéger la santé va se détériorer parce que les pommes, si on ne les fabrique pas en France, on les fabrique en Chine, comme vous le savez.
Oui.
Là, avec un niveau d'épandage de pesticides et des qualités de pommes qui ne sont pas contrôlées. Donc cette volonté, ou plutôt ce fait de ne pas regarder la vérité, de ne pas débattre de ces sujets, d'invoquer des solutions apparemment magiques, c'est pareil dans le domaine de l'énergie, tout ça nous conduit au drame et je pense beaucoup au chômage. Et pour terminer sur ces questions-là, dans l'augmentation des prix des logements en France, depuis 2000, 20% de l'augmentation du prix, c'est uniquement ces normes, dont la plupart sont inutiles. Moi, je trouve que j'ai un petit studio dans une ville de province qui sert de logement aux étudiants. Enfin bref, dans ce bâtiment, il y a 180 chambres, studios d'étudiants. On demande 180 fois de vérifier s'il n'y a pas d'amiante, alors que ça a été construit au même moment, etc. C'est fou.
Donc, au fond, ce que vous dénoncez, Jean de Kervas-Douai, c'est non seulement le principe de précaution qui paralyse bien des secteurs, et également cette judiciarisation de la société qui fait que...
Alors, je vais dire un mot, non. Ce que je dénonce d'abord, c'est la confusion des ordres. Alors, vous savez que donc, Copernic, à qui nous devons beaucoup, a fait 2 choses essentielles. Et la première, qui était vraiment... Il a cru en ses observations... Et la seconde, il a dit « tout n'est pas religieux ». Non, c'est essentiel. Et vous voyez que Pascal s'est battu sur ce sujet. Vous savez qu'il montait son tube à essai, là, il a découvert la pression atmosphérique, au-delà de Tour Saint-Jacques. Et quand j'y passe, je suis toujours ému. Mais, et donc, on découvre, il découvre le vide. Et à ce moment-là, il y a un religieux ou un écolo de l'époque qui s'appelle le Père Noël, ça ne s'invente pas, qui lui dit « mais le vide est la négation de l'existence de Dieu ». Pascal lui dit, mais je ne vous parle pas de Dieu.
Voilà. On peut faire de la science indépendamment
donc,
de la
aujourd'hui,
croyance.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des lois mémorielles, donc le Parlement refait l'histoire, donc, voilà. Mais vous avez aussi des lois scientifiques. C'est-à-dire, il y a eu une loi sur le bisphénol A, alors qu'un an et demi avant, il y avait un excellent rapport de l'Académie de médecine, très prudent, etc. Mais vous voyez que le Parlement donc, interdit une substance qui est le bisphénol A, qui est très très étudiée, hein, qu'on connaît très bien, qu'est-ce qui est le plastique qui est à l'intérieur des boîtes de conserve, notamment, pour lequel il n'y a pas d'alternative. Et tous les étrangers avec les mêmes études disent « Oh là là, on n'y touche pas ». Donc en France, on va payer, les consommateurs vont payer entre 5 et 6 milliards d'euros la protection contre un produit qui n'est pas dangereux. Et ça a été démontré chez les rats. Alors, à peu près tout est dangereux chez les rats. Parce que, à commencer par le café, enfin bref, chose qu'on boit ou qu'on mange en abondance. Et donc la première chose que je condamne, c'est qu'on revient à la confusion des ordres. Donc entre le religieux ou les croyances, parce que pour moi ce sont les croyances et la raison. Alors la deuxième chose que je condamne, c'est le principe de précaution, parce qu'il est tout simplement idiot. C'est-à-dire qu'il nous dit qu'en cas d'événement certain, il faut prendre des mesures proportionnées, ce qui est incertain le demeure.
Bien sûr.
Et donc on ne peut pas prendre de mesures proportionnées.
J'ai coutume de poser à mes invités, Jean de Kervas-Douai, la question de savoir pourquoi ils sont rationalistes. Alors pourquoi êtes-vous rationaliste?
Parce que j'ai conscience de mon histoire, de mon passé et d'avoir vu les Français et moi-même bénéficier de la raison et du progrès. Depuis que je suis né, donc je suis né en 44, l'espérance de vie a gagné 23 ans. Jamais les Français n'ont aussi bien mangé, des choses aussi variées. Moi, j'ai été élevé chez les curés en Bretagne sans chauffage, donc c'était très développement durable. Bon, les gens d'aujourd'hui n'ont plus froid, ils peuvent ne plus avoir chaud grâce à la clim. Enfin, bon, voilà. Et cette inconscience des bienfaits du progrès, bon, certes, on meurt, mais on vit tellement mieux, tellement plus longtemps.
C'est sur ces derniers mots sur le progrès que nous conclurons cette émission. Jean de Kervas-Douai, je vous remercie.
C'est moi.
Le dernier numéro de Raison Présente s'intitule « Le progrès désirable » et conjugue pas mal des réflexions que nous avons amorcées. Je remercie Philippe Baudouin et Élise Leu qui ont rendu possible cette émission et je vous dis au mois prochain, je recevrai Monique Chemillet-Gendreau.